Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et je vous remercie de prendre part aux grands titres du jour en ce mercredi 22 juin. Veuillez noter que les grands titres du jour concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Aujourd'hui, il est question du départ de Jason Kenney, de la surpopulation d'élèves à la CSDM, de laïcité progressive au Québec, de la journée au ralenti et des bienfaits de l'allaitement. Débutons par cet article qui a été publié sur la plateforme du 98,5 FM et qui a pour titre « L'ancien ministre Jason Kenney quittera le Parti conservateur ». Et oui, mesdames et messieurs, voici ce que nous dit le 98,5 FM. L'ancien ministre Jason Kenney renoncera à devenir le prochain chef du Parti conservateur et quittera la scène fédérale, a révélé la CBC mardi. Maintenant, si vous lisez cet article jusqu'au bout, vous allez constater que le Parti progressiste conservateur de l'Alberta est sans chef permanent. Donc, Jason Kenney serait le meilleur candidat pour réunir les forces de la droite en Alberta. Il pourrait réunir les partisans du Wild Rose, puisqu'il a déjà été, lui, membre du Parti réformiste. Et le Wild Rose est, si on veut, le proche cousin du Parti réformiste. Donc, Jason Kenney, arrivant en Alberta, devenant chef du Parti progressiste conservateur, lui qui a connu la fusion entre l'Alliance canadienne réformiste et les progressistes conservateurs au Canada, va être le mieux placé pour réunir les progressistes conservateurs de l'Alberta et le Wild Rose. Pour moi, c'est une équation gagnante. Alors, est-ce que M. Kenney va se lancer dans l'arène? Eh bien, moi, mesdames et messieurs, je ne serais pas surpris qu'il dise un gros oui. Parce que je suis convaincu que M. Kenney va pouvoir rassembler les forces progressistes conservatrices et le Wild Rose, donnant un vent d'espoir, un vent d'unité, un vent de crédibilité. Et laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, que j'ai personnellement écrit à M. Kenney pour l'encourager dans cette direction. Alors, quoi que c'est à suivre, mesdames et messieurs, j'espère bien qu'il va devenir chef d'une nouvelle coalition conservatrice en Alberta. L'Alberta en a besoin. Et le Canada a besoin de retrouver une Alberta avec une force conservatrice puissante, une force de frappe établie qui va donner un vent de fraîcheur au reste du Canada. Eh bien, suivons ça de près, mesdames et messieurs, c'est assez important. Si on se transporte maintenant sur la plateforme du journal La Presse, eh bien, on voit dans un article qui est intitulé « La surpopulation d'élèves fait craindre une rentrée chaotique ». Eh bien, on apprend qu'avec environ 1800 élèves de plus pour gonfler ses rangs, la Commission scolaire de Montréal, la CSDM, redoute une entrée d'automne chaotique dans les écoles des quartiers centraux. À quelques jours du début des vacances, la présidente Catherine Harel-Bourdon lance un appel au dialogue au syndicat des professeurs pour déroger aux moyennes d'élèves du territoire. Eh bien, c'est ce que nous apprend la presse. Un article à lire et définitivement, que lorsqu'on voit ces chiffres et lorsqu'on voit ces problèmes, il est temps, mesdames et messieurs, qu'on décloisonne le système de l'éducation, qu'on le rende plus souple, plus malléable pour le bien des enfants. Et le premier pas dans cette direction, vous le savez, je vous l'ai répété à plusieurs reprises, c'est d'abolir les commissions scolaires, d'avoir uniquement 17 directions régionales pour coordonner les services entre les écoles et donner un pouvoir accru aux écoles sur le terrain. Et je crois également qu'il doit y avoir une saine compétitivité entre les écoles pour qu'on puisse y avoir un système d'éducation qui est toujours à la hauteur, pour ne pas dire, comme on l'exprime en bon québécois, sur la coche, mesdames et messieurs. Un autre article qu'on peut lire sur la plateforme de la presse et qui est inquiétant, ça touche la laïcité. Cet article s'intitule « Laïcité, lisez, défend son approche graduelle ». Voici ce que la presse nous dit. Le candidat à la direction du Parti québécois propose de commencer par exprimer aux fonctionnaires la préférence de l'Assemblée nationale pour l'absence de signes religieux dans un signal clair avant de laisser les organismes publics où un consensus existe de les interdire carrément à l'embauche. Le tout accompagné d'un respect des droits acquis pour les employés embauchés avant l'entrée en vigueur d'une éventuelle loi lisée. C'est très progressif. Je veux continuer à ce rythme-là. On marche vers plus de laïcité, mais sans brusquer les choses, dit M. Lisée. Peu importe cette prise de distance, avec les propositions Lisée, on est encore en violation de droits de notre charte. On ne s'éloigne pas beaucoup des controverses, on rouvrirait ce panier de crabes, a dit craindre M. Bouchard. Cela nous amène plus en arrière qu'en avant. Ici, les questions de M. Bouchard, de la commission Bouchard-Taylor. Mais j'aimerais vous lire encore quelques mots qui ont été écrits sur la plateforme de la presse. M. Lisée a ajouté que même la plus simple application de la recommandation clé de la commission Bouchard-Taylor, interdiction des signes religieux pour les fonctionnaires avec pouvoir de contrainte, entraînerait assurément des poursuites. L'élu s'engage d'ailleurs à la mettre en œuvre en spécifiant qu'il s'agit des signes de toutes les convictions, ostentatoires ou non. En d'autres mots, mesdames et messieurs, de réouvrir ce dossier-là, ça ne fait qu'ajouter des tensions. Moi, je vous l'ai toujours dit, je le répète encore, je crois à la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de conscience et la liberté de religion. Dans la mesure où est-ce qu'il y a un respect et là où est-ce qu'on doit mettre des balises, un encadrement, c'est lorsque ça touche l'identité d'une personne et la sécurité d'une personne. Maintenant, si un employé de l'État a une croix dans le cou, ou par exemple une croix sur l'oreille, je ne crois pas qu'on doit en faire un plat, puisqu'il s'agit d'une liberté individuelle. Ce qu'il faut établir, par exemple, dans certaines circonstances ou dans certains contextes, c'est évidemment le port d'un uniforme. Au même titre qu'un policier ne peut pas porter un macaron sur sa chemise, qui est écrit, par exemple, « J'aime McDonald's » ou « J'aime les frites » ou « J'aime Burger King », je ne vois pas pourquoi il porterait un signe ostentatoire ou un signe visible de ses croyances. Déjà, il y a des règles du jeu, il y a des règles qui sont imposées, par exemple, aux policiers concernant l'uniforme. Donc, on n'a pas besoin de réinventer la loi à ce niveau-là. Par contre, la problématique dans tout ça, mesdames et messieurs, c'est que derrière cette philosophie-là, et on l'a vu ensemble également dans cette série qui est intitulée « Aux citoyens de la bonne foi », c'est que l'esprit de la laïcité vient du mouvement laïque québécois, du MLQ. Et cet esprit-là, c'est justement de laïciser mur à mur le Québec. Donc, c'est simplement une première étape, ou disons, une énième étape, devrais-je plutôt dire, pour laïciser notre belle nation québécoise. Alors, je ne crois pas qu'on doit aller vers plus de laïcité. Je crois qu'on doit aller vers une meilleure définition de qui nous sommes. Et c'est pour ça que j'ai toujours opté, depuis les 20 dernières années, à un patrimoine communautarien. On met de l'avant notre patrimoine, notre historique, notre mémoire collective qui est reliée à une histoire depuis Jean Cartier, qui fait référence à la croix, qui fait référence à Noël, à Pâques, à l'Action de grâce, qui fait référence à la Saint-Jean-Baptiste, mais qui est respectueux de la diversité et qui permet à toutes les diversités de pouvoir croître dans cette communauté. Mais lorsqu'un symbole devient national, eh bien, c'est notre patrimoine qui vient prendre le dessus, tout simplement. Donc, on n'exclut pas les autres, on n'exclut pas la communauté musulmane de jeûner lorsque c'est le temps du Ramadan, mais on ne fera jamais du Ramadan une fête nationale reconnue. C'est là la distinction, mesdames et messieurs. Journée de la lenteur, eh bien, être lent, non. Ralentir, oui. Alors, c'est ce que Catherine Henfield nous dit sur la plateforme de la presse. Elle exprime ceci. Comme tous les 21 juin depuis 16 ans, le parc La Fontaine sera l'hôte de la journée de la lenteur qui nous invite à appliquer les freins sur notre vie effrénée. Faut-il ralentir? Est-ce fait pour tout le monde, la lenteur? On en parle avec Sonia Lupien, directrice scientifique du Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et directrice du Centre d'études sur le stress humain. Alors, je vous invite à lire cet article, mesdames et messieurs. Sur une autre plateforme, celle du devoir. On nous parle d'aide médicale à mourir. Voici ce qu'on dit. Aide à mourir. Le tiers des demandes sont refusées. Et oui, mesdames et messieurs, selon le devoir, plus de 120 patients québécois ont demandé l'aide médicale à mourir depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les soins de fin de vie en décembre 2015. Mais un peu moins du tiers n'a pu y avoir accès, révèlent les données compilées par le devoir. Plusieurs de ces patients en fin de vie sont morts avant d'avoir vu leur demande être traitée ou sont devenus inaptes à réitérer leurs souhaits comme l'exige la loi. Une analyse plus fine révèle que la plupart du temps, les requêtes ont avorté en raison de circonstances liées au délai encouru pour traiter la demande, pour obtenir l'avis d'un second médecin ou pour évaluer si le patient répond aux critères prévus par la loi. Dans une minorité de cas, les patients ont été jugés non conformes aux conditions légales exigées pour bénéficier de l'aide à mourir. Évidemment, mesdames et messieurs, c'était clair qu'on s'attendait à ce qu'il y ait des ratés dans cette loi-là, et ce, à plusieurs niveaux. Premièrement, plus qu'on met de balises, plus que c'est complexe à gérer. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, mesdames et messieurs? Bien, ça veut dire que, puisqu'on donne un service, qu'on autorise un service, et ce service, c'est de donner la mort à des patients qui le demandent, qui sont en fin de vie parce qu'ils ont une maladie incurable, eh bien, ce qui va arriver, pour accélérer les choses, on va être obligé d'assouplir les règles. Alors, toutes les garanties qu'on disait, oui, ben on ne le donnera pas à tout le monde parce que, justement, on va mettre des balises très claires et très spécifiques. C'était prévisible, ça, mesdames et messieurs. On le savait qu'il allait nous jouer cette carte-là. C'était clair et précis. Et je ne suis pas en train de dire que maintenant, ça se fait de mauvaise foi. Je ne suis pas en train de dire ça, mesdames et messieurs. Je suis simplement en train de dire que lorsqu'il y a trop de critères, lorsqu'il y a trop de paramètres en jeu, ça devient complexe à gérer. Et donc, pour décomplexifier la situation, on doit retirer des critères pour pouvoir être plus efficace. Et donc, on va devoir éventuellement, inévitablement, changer, modifier, altérer la loi, ou du moins les mécanismes qui y sont inclus. Alors, c'est pour ça qu'il y a bien des gens, comme le groupe Vive dans la dignité et autres, qui s'opposaient à ce qu'on puisse offrir l'aide médicale à mourir. Et ce qui est assez spécial, mesdames et messieurs, c'est que la plupart des opposants à l'aide médicale à mourir, à l'euthanasie, au fait de donner la mort à des patients souffrants, eh bien, l'argument numéro un, c'était de pouvoir offrir des soins palliatifs de qualité pour soulager et faire du bien à ceux qui souffrent. Mais on n'a pas voulu aller dans cette direction-là. La Cour suprême n'a pas voulu envisager cette direction-là et les gouvernements n'ont pas utilisé la clause dérogatoire pour empêcher qu'on puisse légaliser l'aide médicale à mourir. En terminant, on va finir sur une bonne nouvelle. Les enfants nourris au sein, 6 mois, ont moins de troubles de comportement, selon une étude, et c'est ce que nous rapporte le Journal de Montréal. Je vous invite à lire cet article, mesdames et messieurs, fort enrichissant. Mais avant de vous quitter, laissez-moi vous rappeler que les liens qui sont reliés aux articles qui ont été mentionnés dans cette émission sont accessibles sur Décentrer le discours et sur ma page Facebook via le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Sur ce, mesdames et messieurs, bonne lecture, bonne réflexion et bons échanges avec les gens de votre entourage. Pour ma part, je vous dis à demain.